Vous écoutez Radio Campus. Le magazine Quoi de Neuf, comme chaque mercredi entre 16h30 et 18h. Un magazine consacré à l'actualité culturelle régionale. Et nous recevons Simon Capel. Bonjour Simon.
Bonjour René.
J'allais dire Simon le retour.
Oui, ça y est, c'est la rentrée.
Eh oui. Alors, qu'annonces-tu pour cette belle rentrée au nom de la compagnie Zone Poème ?
Alors, la première chose, c'est pas vraiment la compagnie Zone Poème, puisque ils sont en répétition actuellement sur un de mes textes. C'est une création qui s'appelle Rovina. Et c'est le collectif des Mobilhomes et Daniela Piemontesi qui le met en scène. Mais il se trouve qu'il y a aussi au plateau la co-directrice de Zone Poème, Mélodie Lasselin, et puis une interprète qui s'appelle Estelle Granet. Et elles sont toutes les deux accompagnées d'un chœur de femmes sur l'ensemble du plateau. Donc c'est pas vraiment la compagnie Zone Poème, mais c'est vraiment un collectif, une compagnie avec lesquelles on aime beaucoup travailler.
Donc le chœur, c'est la compagnie Zone Poème. C'est le chœur de la compagnie Zone
non,
Poème.
Non, c'est des, en fait, c'est des femmes, des comédiennes amatrices que Daniela est allée chercher. Et c'est un chœur qui est amené à suivre les représentations du spectacle au fur et à mesure, à grandir, à diminuer. Au fur et à mesure des représentations.
Donc ce texte s'appelle comment ?
Alors ça s'appelle Rovina, c'est un mot italien qui veut dire ruine. Puisque c'est un texte qui a été écrit en 2015, au moment où on avait inventé cette expression crise des réfugiés, qui concernait d'abord et surtout médiatiquement l'Italie. Et donc c'est un texte qui a été écrit en français, mais aussi traduit en italien et qui a fait l'objet d'un travail photographique de la photographe de la compagnie qui est italienne aussi. Donc c'est voilà, il se trouve que Daniela est de par son origine aussi liée à l'Italie. Donc c'est un des terrains de recherche.
Donc c'est vrai que l'Italie de cette époque, hein, donc 2015, depuis on ne peut pas dire que ça soit vraiment beaucoup arrangé.
Non, ce n'est pas exactement la même Italie. Pour y être allé encore cet été, puisque c'est un pays qui me tient vraiment beaucoup à cœur, c'est vrai que ce n'est pas du tout le même climat. Au niveau des jeunes artistes que j'ai pu côtoyer là-bas, voilà, c'est quelque chose qui pèse, quoi, qui est vraiment lourd, qui est un objet de révolte et d'indignation quotidienne, c'est-à-dire le rapport au gouvernement qui est en place. Et c'est certain que, malheureusement, la question de la migration est, de manière douloureuse, elle est encore présente aujourd'hui en Italie. Donc voilà, c'est un texte qui est né de quelque chose d'assez immédiat, d'un questionnement à ce moment-là, mais c'est vrai que il est encore très présent.
Mmh. Alors, donc c'est un texte plutôt littéraire ou qui est plutôt dans le concret de la vie ?
Alors c'est une série de poèmes en réalité que Daniela adapte au plateau. Pour le distribuer à ses interprètes, mais c'est des poèmes en réalité qui cherchent à retracer ce que peut être l'arrivée sur un nouveau territoire pour un migrant, et qui pose la question de l'exil aussi, et du point de vue de la langue aussi, de cette extraordinaire difficulté à parler de ce sujet-là déjà. C'est très difficile de mettre des mots sur ce que ça peut représenter, et aussi c'est l'un des premiers chocs qui peut arriver lors de l'exil, c'est la confrontation à une langue étrangère, et c'est cette double impuissance que j'ai cherché à questionner dans ce texte-là.
Mmh. C'est vrai que bon, l'Italie n'a pas été beaucoup aidée par la France, hein, d'une manière globale dans cette période. D'autres pays aussi n'ont pas forcément contribué à la résolution de ce problème de l'accueil des personnes exilées, qui sont exilées pour la plupart pour des raisons politiques.
Oui, politique, économique, climatique, et les, comment dire, les migrations, à partir du moment où on construit des frontières dans le monde, forcément il y a des migrations, puisqu'il y a des territoires et qu'il y a des passages d'un territoire à l'autre. Et donc c'est un phénomène qui existe depuis un certain temps, sauf que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il n'existe pas simplement pour des raisons de recherche d'emplacement ou de comme ça a pu exister dans la préhistoire, mais il existe aussi parce que il n'y a pas d'autre choix en réalité et que il y a une, comment dire, une responsabilité derrière ces migrations. Elles sont pas hasardeuses.
Donc, comment on peut développer un projet artistique à partir d'une réalité, je veux dire, qui est compliquée, de stratégie géopolitique, de problèmes aussi liés au racisme qui se développe, etc.
Alors, c'est là où le travail de Daniela est percutant et remarquable, c'est que c'est une artiste extrêmement sensible au vivant. Donc le spectacle sur le plateau, il ne s'agit pas de proposer une analyse géopolitique, mais il s'agit au contraire d'essayer de retrouver du vivant à l'intérieur de ce phénomène-là, qui pour la plupart d'entre nous existe à travers des chiffres, à travers ce genre de données-là, mais qui est pas palpable, qui est pas sensible. Et donc il y a un gros travail d'image, de sensualité de l'image chez Daniela, de rapport au corps, de rapport aussi au chant, à la danse. C'est une artiste qui accorde une place très importante à la voix, à la sensibilité directe du plateau pour le public. Et donc c'est aussi de cette manière-là que ce qui peut être un enjeu politique douloureux, complexe, peut devenir un moment presque de rituel sur un plateau.
Le chœur des femmes dont tu nous parlais tout à l'heure, hein, qui donc accompagne Mélodie Laslin et Estelle Granet, ce sont des personnes qui ont été sensibilisées à cette question ou pas?
Alors, sensibiliser, c'est presque un mot faible, puisqu'il y a même des personnes dans le chœur de femmes qui actuellement font partie de l'association que peut-être certains connaissent, qui s'appelle Migraction, dans le 59, et qui est une association qui travaille énormément à faire en sorte que les migrants puissent bénéficier le temps de quelques journées, quelques nuits de l'hospitalité de quelqu'un, puisse dormir chez lui, puisse se laver, puisse manger. Et donc, alors, tous ne viennent pas de là dans le cœur, hein. Il y a des comédiens et des comédiennes, enfin, c'est des comédiennes, pardon, amatrices de différents profils. Mais je crois qu'il y a vraiment, de la part de l'ensemble de l'équipe qui travaille sur ce projet, le sentiment d'être concerné directement, en réalité. Il ne s'agit pas simplement d'incarner quelque chose sur un plateau qui serait étranger, mais que cette étrangeté, elle existe déjà en chacun de nous, que c'est un questionnement qui est à l'intérieur de nous.
Donc, une avant-première qui a lieu à Avion, au Centre culturel Jean Ferrat, c'est vendredi à
Oui.
15h30.
Oui, ils sont en résidence cette semaine à Avion, dans ce très engagé et très agréable centre culturel. Et donc vendredi à 15h30, il y a une avant-première, une première présentation du travail avant que la première ait lieu au Théâtre du Millénaire à la Madeleine le vendredi 12 octobre.
Donc
Donc
ce lieu-là, c'est celui qui est à côté de la mairie, derrière la mairie?
exactement,
Ouais.
c'est tout à fait ça. Ah,
D'Avion.
oui.
Hein? Ça, donc c'est facile, c'est à la mairie d'Avion, on va dire, hein? Une grande salle qui est derrière, donc qui est tout à fait bien pour un spectacle. Donc on peut y mettre 400-500 personnes, je
Oui,
pense.
il y a de la place. Et alors, il me semble que c'est gratuit en plus, vendredi. Pardon, pas avoir l'information exacte.
Moi,
mais...
je pense qu'à 15h30,
ouais,
c'est gratuit.
Voilà,
Ouais,
donc il faut surtout pas hésiter, pour peu qu'on soit pas retenu par des obligations, à aller voir ce spectacle.
Voilà, donc ça, c'est l'avant-première, ce qui veut dire qu'après, il y a une tournée.
Oui, il y a différents partenaires autour de ce spectacle, avec des dates qui sont en train de se mettre en place. Mais c'est un travail qui a commencé il y a un an et demi. Donc il y a eu différentes périodes de résidence dans différentes structures de la région, des maisons folies, etc. Et donc on espère que ça va aboutir, oui, à une tournée qui puisse faire partager ce spectacle sur l'ensemble du territoire qui est, je crois que tous les territoires devraient se sentir concernés, mais c'est vrai que le nôtre est particulièrement sensible à cette question-là, de par Calais, et puis de par on sait assez peu qu'une partie de l'équipage de l'Aquarius qui a mis tellement de temps à arriver sur le continent est accueillie à Lille. Mmh. Une partie d'entre eux est ici à Lille. Donc voilà, c'est vraiment des je pense que c'est faire un acte de citoyen que de s'intéresser à cette question-là.
Voilà, donc là, on parle d'un spectacle qui s'appelle, le texte s'appelle Rovina, hein, et puis c'est Daniela Piemontesi,
oui,
du collectif des Mobile Home, Mobile Home, d'accord ?
Exactement.
Et au-delà de ça, tu es donc toi co-directeur artistique de la compagnie Zone Poème, une compagnie qui, cette année, est épaulée par La Rose des Vents.
Oui, on a eu la chance d'avoir la confiance de la Rose des Vents et de la DRAC Hauts-de-France qui nous soutiennent dans un dispositif qui s'appelle le Pas à Pas et qui est un dispositif d'accompagnement à l'émergence qui consiste à être une année, une saison dans une structure et d'en profiter pour apprendre ce que c'est que la vie de cette structure, participer à la vie de cette structure, et puis en même temps c'est un terrain d'expérimentation avec quelques périodes de recherche pour nous. C'est vraiment un moment pour tenter de, nous on l'a pris comme ça, de grandir en tant que compagnie, de grandir artistiquement et puis d'essayer de comprendre le mieux possible comment la culture fonctionne dans notre région.
Alors j'en profite pour saluer Didier Thibault qui prend sa retraite.
Oui, oui, oui.
Qui était directeur de La Rose des Vents, mais qui a signé cette saison, je suppose.
Oui, 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 bien sûr, qui a fait la programmation de cette dernière saison et qui va être remplacé début 2019, mais qui est encore là pour cette rentrée, et qui nous a fait confiance et qui est vraiment remarquable. Enfin, il suffit de regarder l'ensemble des programmations de La Rose des Vents pendant son mandat pour se rendre compte de la chance qu'on a eue.
Voilà, donc ça se concrétisera par des présentations de spectacles à La Rose des Vents ?
Alors, pas cette saison, parce que c'est pas l'objectif du dispositif. Mmh. Néanmoins, il y a des représentations de spectacles de la compagnie cette saison et qui sont en fait les tournées des créations pour amateurs que Mélodie et moi avons faites la saison précédente. Mmh. Et la première, c'est celle de l'atelier de Mélodie, donc il y a un atelier de théâtre et de danse, et c'est un spectacle qui s'appelle Blanc. Qui sera créé le 22 septembre au Cursal, à LM. Et c'est un spectacle qui, lui, s'interroge sur la mémoire et surtout les différents stades de la mémoire. C'est-à-dire autant la mémoire enfantine, qu'est-ce qu'on retient de ces instants-là, que la mémoire de fin de vie, comme la question d'Alzheimer et de comment ces perceptions du réel, en réalité, nous modèlent, construisent notre identité. La façon dont on se souvient ou pas des choses construit la manière dont on se représente le monde et nos possibilités aussi d'interaction avec ce monde-là. Donc c'est un spectacle vraiment très très beau puisqu'il part, du corps des interprètes. Et c'est vraiment une tentative de suspendre le temps de la représentation, d'être dans un espace vide et ouvert où tout redevient possible. Voilà. Et le deuxième, donc c'est une nouvelle représentation de Insula, qui est le spectacle dont j'étais venu parler ici sur la ville de Lille, et qui avait abouti aussi à une performance de 10 heures.
Sur 10 lieux.
Oui, en mai dernier dans la ville de Lille. Et donc, on a décidé de continuer à poursuivre le processus. Donc, on a été invité à l'entre-deux dans le cadre d'un week-end qui est consacré au théâtre politique, social et engagé, à venir proposer une nouvelle représentation. Et de nouveau, on va malaxer toute cette matière qu'on a récoltée dans la ville de Lille. On va malaxer aussi la matière liée à la performance qu'on a faite, donc des vidéos, des sons, des propos qu'on a recueillis, des textes que j'ai écrits et qui sont portés par la troupe au plateau. Pour essayer de tenter de proposer une nouvelle perception de la ville de Lille qui soit unique sur ce spectacle-là, et on essaye de la faire changer à chaque représentation, en fait, qu'il y ait vraiment des matériaux différents qui interviennent dans la représentation. C'est un spectacle dans lequel les interprètes sont extrêmement créateurs, en réalité. On essaye de montrer sous la forme d'un espèce de laboratoire comment on peut créer une identité d'une ville dont les territoires en réalité sont extrêmement morcelés.
Donc c'est vrai que politiquement, donner de la cohérence à une ville, ça peut avoir un sens.
Oui. Oui, il faut tenter un regard global sur une ville, même si c'est toujours extrêmement complexe, parce que on parle souvent d'identité lilloise, on parle de la braderie de Lille, on mentionne souvent on parle des moules frites, on parle de ce genre de choses-là. C'est parfois tenter de rassembler dans une unicité ce qui est de l'ordre de quelque chose de beaucoup plus complexe. Toute personne qui vit à Lille ou qui connaît un peu Lille et qui s'est baladée dans les différents quartiers de Lille sait que c'est pas du tout la même réalité dans le vieux Lille ou à Faubourg de Béthune, qui est d'ailleurs un quartier qu'on oublie souvent et où on va pas souvent. Donc on a essayé vraiment dans ce projet de redessiner une cartographie qui tiendrait compte aussi des zones oubliées de notre espace, parce que créer du commun, c'est pas masquer les différences, mais c'est en tenir compte et les regarder en face, et c'est seulement en les regardant en face qu'on peut ensuite construire quelque chose ensemble. C'est pas en niant la réalité qu'on peut proposer un projet politique.
Voilà, donc est-ce que les politiques ont besoin des hommes de culture, des créateurs culturels, de spectacles notamment, et comment vous en sortez en fait dans un monde économique qui est un peu difficile, hein, des rapports aux politiques qui peuvent être un peu complexes, comment vous arrivez à créer votre identité de créateur, préserver ça dans un monde qui de plus en plus peut-être est lié à des dispositifs d'accompagnement?
Alors ça, c'est une très très bonne question, qui n'est pas du tout une question facile. Ce que je peux dire, c'est que la notion de besoin, je crois qu'elle n'existe d'un point de vue de comment les artistes font pour pas crever de faim, quoi. En réalité, mais que au-delà de ça, il devrait pas y avoir d'obligation morale sur le travail du créateur. Je crois assez fondamentalement que l'artiste n'a pas de compte à rendre, si ce n'est à son public dans le moment de la représentation, si tant est que on considère la représentation différemment d'une expérience partagée. Et là, il y a une discussion, là, il y a un partage, là, il y a des comptes à rendre. Mais du point de vue du politique, comment dire, le simple fait de faire du théâtre est déjà, pour moi, un acte politique en soi. Puisque questionner la représentation, questionner le langage, questionner l'image, c'est déjà questionner un ordre établi. Et je crois que l'art est là pour rompre certaines évidences et pour les briser, les donner à regarder, briser au spectateur, pour lui rendre sa liberté de composition des choses. Donc le rapport entre le culturel et la politique, il est toujours à questionner. Bien sûr, il faut de la formation, il faut de l'éducation, il faut ces choses-là, mais il les faut, à mon sens, en les accompagnant de la liberté avant tout. L'égalité, pour moi, ne suffit pas. Il faut donner les moyens à chacun d'être libre. Et être libre, ça veut aussi dire pouvoir être critique et pouvoir renverser la table.
Donc cette liberté, finalement, elle peut être aussi préservée, encouragée par un dispositif d'accompagnement comme celui de la Rose et Vent qui cautionne d'une certaine manière votre démarche artistique.
Bien sûr, parce qu'il y a des gens qui offrent cette possibilité-là et que elle existe. C'est-à-dire que quand une structure donne la possibilité à un artiste de bénéficier d'un temps de résidence, de travailler dans un espace et qu'elle lui fait confiance, alors oui, il y a une vraie liberté qui peut s'exprimer, il y a un vrai partage et pour le coup, La Rose des Vents a été depuis le début un interlocuteur fondamental et pertinent dans nos recherches et vraiment ça soulage de beaucoup de choses que de pouvoir avoir des gens en face avec qui partager. Maintenant, j'essaie d'être toujours le plus suspicieux par rapport à ma propre pratique possible, et donc je m'interroge toujours sur les modalités avec lesquelles même moi, individuellement, je crée, ce qui m'amène à essayer de mesurer les influences. Que notamment la société libérale dans laquelle on vit peut induire sur notre travail. La question des moyens de production, elle est fondamentale à mon sens. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas de la même manière avec tel ou tel budget, on ne travaille pas de la même manière sous la pression sociale ou sous la pression économique, et on ne travaille pas de la même manière suivant comment on est. Enfin, le rôle qui nous est assigné dans une société, que ce soit par rapport à notre couleur de peau, par rapport à notre genre, enfin, ce sont un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte quand on est artiste. C'est toujours très très difficile de dire qu'on fait ce qu'on veut comme on le veut. Il y a beaucoup de paramètres avec lesquels il faut dialoguer, même intimement, personnellement.
Donc on a beaucoup parlé à un moment donné, on continue, hein, de développement des publics. Est-ce que pour toi, c'est une expression qui a un sens?
Poser comme ça, oui, tout dépend ce qu'on met derrière le terme de développer, derrière le terme de public. J'aime bien le terme de spectateur, parce que c'est aussi prendre en compte une individualité et donc ne jamais oublier que la représentation, elle n'a pas lieu pour une masse, mais qu'elle a lieu pour différentes individualités qui partagent un moment en commun. Et ça, pour moi, c'est vraiment la force du théâtre, d'être encore l'un des rares endroits aujourd'hui qui propose une expérience directe, immédiate, commune. Et une expérience, quand je dis directe, c'est-à-dire avec un rapport presque primitif au corps, qu'on a de moins en moins. On sait avec le numérique, avec ces choses-là, que de plus en plus nos rapports se construisent par de la fiction aussi, par de la représentation algorithmique aussi. On a une perception des autres parfois qui est déterminée par des mathématiques, qui est pas immédiate, qui est pas celle du corps, qui est pas celle de parler. Ou de vivre, de bouger face à un autre public. Comment développer un public? Je crois que la meilleure manière, c'est aussi d'offrir la possibilité d'une radicalité dans les propositions. C'est de pas prendre le public pour plus bête qu'il n'est. Je pense que tout être humain a accès à une forme d'intellection, de sensation, et donc à différents degrés est capable d'apprécier une représentation, et qu'il faut faire confiance aussi aux citoyens pour recevoir ce qui se produit sur un plateau.
Alors, si on fait un petit comparatif, on a un petit peu de temps pour parler un petit peu de ça, peut-être, c'est une question que que je n'aborde pas souvent. Nous, ici, on est dans une radio, donc a priori, on s'adresse à beaucoup de monde, mais chacun étant individuel derrière son récepteur, hein, sinon derrière son casque. Par rapport à l'expérience du théâtre, où là, vous avez un public qui est devant vous, parfois nombreux, comment vous vivez les choses, cette rencontre avec un public qui assiste à une représentation ?
Alors, j'aime beaucoup que tu compares la radio avec le théâtre, parce que il se trouve que, c'est vraiment honnête, la radio, pour moi, c'est vraiment un objet de fascination. C'est-à-dire que c'est quelque chose que... c'est une des activités que j'aime le plus faire dans mon métier, c'est venir parler dans un micro, pour une raison que je ne sais pas complètement élucider. Mais donc, j'aime bien que tu poses la question aussi par rapport au théâtre. Là, la beauté commune de la radio et du théâtre, c'est que ce qu'on est en train de faire là, c'est du direct. C'est-à-dire que là, au moment où je parle, je suis obligé de l'élaborer pendant que je parle, même si j'ai pensé avant à ce que je voulais dire, et je sais aussi pourquoi je viens dans le studio, mais il y a cette fragilité, cette vulnérabilité, cette instantanée qui fait que si tout d'un coup je m'arrêtais de parler, il y aurait un silence.
Ou une question. Qui peut être pire encore.
et donc dans le théâtre, il y a la même chose. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, il y a une prise de conscience du temps de manière immédiate, et aussi de l'impact que le temps a sur nous et de l'impact que nous pouvons avoir aussi sur le temps. Et ça, c'est vraiment une force de ces deux pratiques, parce que c'est là qu'il y a un questionnement politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut travailler sur le temps, influencer le temps, alors on questionne aussi notre rapport au passé, au présent, au futur, à la présence du passé dans le présent, à la présence du futur aussi, de tout ce qui est conditionné dans chaque instant, tout ce qui est en train de se créer, et avec une vraie liberté. Ce que je suis en train de dire là, je ne sais pas ce que je vais dire dans les 10 prochaines secondes, mais je suis en train de le dire et je pourrais dire complètement autre chose. Il y a une vraie, ça m'appartient complètement. Et sur le plateau, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire que il y a cette sensation pour le public et pour l'interprète aussi sur le plateau, parce que vraiment pour les interprètes, c'est dans ce sens-là aussi qu'on essaye de travailler, je crois, d'insuffler dans le présent une liberté totale qui pourrait renverser beaucoup de choses en réalité. Pour moi, il y a une force révolutionnaire dans ces pratiques-là.
Donc là, ici, en radio, on est dans une aventure. On ne sait pas toujours où on va exactement, et heureusement. Sur scène, vous avez un public qui est devant vous. Est-ce que vous vous sentez porté par le public, voire insupporté d'ailleurs?
Oui, il y a toujours ces choses qu'on raconte entre nous quand on sort de plateau, où il peut arriver qu'on dise « Ah, le public ce soir, il était comme ça » ou « Il était comme ça » parce que c'est vrai. C'est-à-dire que bien sûr que les spectateurs qui viennent dans une salle regardent un spectacle, on peut le proposer comme ça, mais je cache pas que quand je suis au plateau dans une représentation et suivant les différentes représentations, ça change. Moi, j'ai aussi l'impression d'être au spectacle, parce qu'en face de moi, j'ai 100, 200, 300 personnes et qui sont en train de vivre en réalité, même si elles écoutent, même si elles regardent, elles sont en train de vivre, de réagir. Et on est sensible à ça quand on est sur un plateau, et on essaye le plus possible d'entrer en dialogue avec ça. Entrer en dialogue avec ça, ça ne veut pas forcément dire épouser le public, épouser ses attentes, mais ça veut dire essayer de proposer quelque chose qui soit en interaction avec ce qui se produit. Ça ne veut pas dire forcément qu'on casse le quatrième mur ou qu'on s'adresse directement au spectateur, mais je crois que c'est... Il y a une convention, une fiction qui est on regarde un spectacle de théâtre et on s'accorde la possibilité de croire que ce qu'on voit sur le plateau est vrai alors que ça a été parfois répété, travaillé. Mais en même temps, ça reste un instant complètement immédiat. Ça reste un moment T. Il est 20h35 dans la salle de spectacle et ce qui est en train de s'y produire, c'est exactement ce qui se produit avec les personnes qui y sont, avec tous ceux qui travaillent. Donc il y a vraiment... Il y a vraiment une emprise directe et qui est vraiment, j'insiste là-dessus, mais qui est une emprise politique au sens littéral, au sens de la police, au sens où le citoyen est impliqué directement dans la vie de la cité. C'est ça le politique.
Voilà, mais je pense que nos auditeurs auront compris quelle relation vous unira au prochain spectacle. Ta prochaine présentation, prestation sur scène, ce sera quand, toi ? Simon Capel.
Alors moi, j'ai la chance d'être au plateau deux fois au Théâtre Massenet pour deux créations différentes avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Les Arpenteurs, qui est portée par Maxence Cambron. Ce sera en janvier 2019 au Théâtre Massenet, la deuxième et la quatrième semaine. D'ailleurs, le deuxième spectacle est ouvert aux amateurs, c'est-à-dire que c'est aussi un stage pour tout comédien qui veut rejoindre le projet. Les deux projets sont autour de Marcel Proust. Le premier est un solo que m'a offert Maxence avec grande générosité autour de la question de l'homosexualité et de l'homophobie chez Marcel Proust. Et il se trouve que le deuxième, le stage, qui aura lieu la dernière semaine du mois de janvier, s'appelle L'étranger dans la maison. Et lui aussi, pour boucler avec Rovina, il est sur la question de la présence de l'étranger dans une maison. En l'occurrence, il s'agit d'étrangeté aussi liée au milieu social, aussi liée à la judéité de cette personne. Et c'est aussi un questionnement sur comment dans nos... pour revenir à Rovina, comment dans nos sociétés on fait... pour le dire autrement, comment ça se fait que dans nos sociétés, on ait autant de mal à considérer comme notre semblable et notre proche quelqu'un qui vient d'ailleurs, alors que la personne qui habite à côté de chez moi, elle aussi, elle vient d'ailleurs, et que j'ai aucun problème à considérer que je peux la respecter.
Voilà, bien merci Simon pour cette réflexion, cette actualité que tu nous as présentée. Et bien sûr, tu viens quand tu veux à Radio Campus.
Merci beaucoup René.